Israël, mythe et réalité. Nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi.
Bonjour.
Nous sommes à Radio Taf à Tel Aviv et nous allons vous proposer une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme. À travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire, notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des événements et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Donc, Michael, le sionisme aujourd'hui, c'est un mot qui irrite énormément. C'est presque un drapeau rouge en Europe. Mais qu'est-ce que c'est exactement le sionisme ?
Alors, je crois qu'il faut distinguer parce que, effectivement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de contre-vérités, de préjugés, d'ignorance à propos du sionisme. Je crois qu'il faut d'abord comprendre ce que veut dire le mot sionisme. Le mot sionisme a été forgé dans l'appareil culturel et intellectuel moderne en 1890. Par un Allemand qui s'appelait Nathan Birnbaum, mais il s'est forgé à partir du mot « Sion ». « Sion », c'est un autre mot pour désigner Jérusalem et plus généralement pour symboliser la terre d'Israël. Et donc il faut distinguer entre ce que l'on appelle le mouvement sioniste moderne, qui a abouti au rétablissement de l'État d'Israël ou d'un État juif en terre d'Israël, de l'idée sioniste, plus généralement, qui est une idée qui commence déjà dans la Bible et qui est racontée finalement à travers toute l'histoire du judaïsme. Tous les juifs sont d'une certaine façon sionistes, ils ne sont peut-être pas tous sionistes au sens politique, mais Sion a toujours été dans le cœur du judaïsme, dans la pensée juive, dans les prières et bien évidemment dans l'histoire.
Quand est-ce qu'est né vraiment le sionisme ?
Alors, le sionisme moderne, difficile de donner la date exacte. Le mouvement sioniste moderne, on sait quand il est né, c'est après la rédaction du livre « L'État des Juifs » écrit par Herzl en 1895 et qui faisait suite à l'affaire Dreyfus, qui l'avait beaucoup choqué. Cela dit, il y avait déjà des mouvements sionistes qui existaient auparavant et on peut dire que tout au long de l'histoire juive, et notamment de l'histoire juive après l'exil, c'est-à-dire après la destruction du deuxième temple en 70 par les Romains, il y a eu, des mouvements sionistes qui ont été plutôt des mouvements non pas politiques, mais spirituels. Souvent, ce sont des rabbins, souvent des grandes personnalités du judaïsme, comme Rabbi Moshe ben Nachman, qu'on appelle Nachmanide, est parti après la fameuse dispute de Barcelone, est parti au Moyen-Âge s'installer en terre d'Israël. D'autres grands rabbins sont partis en Israël, notamment le grand rabbin de Paris. Lorsque le Talmud a été brûlé en place de grève, eh bien, il a fait son alia, comme beaucoup de juifs qui le faisaient et qui allaient sur ce parcours d'aller-retour. Alors, il y avait des juifs d'Israël qui allaient visiter les juifs en diaspora et des juifs de diaspora qui montaient en Israël à certains moments. Et donc, il y a eu énormément d'alias. Et il faut aussi rappeler qu'il y a une présence juive permanente en terre d'Israël. Et donc les juifs n'ont jamais vraiment quitté la terre d'Israël, même après l'expulsion, même après l'exil. Il y a toujours eu, ici ou là, en terre d'Israël, des villages et une présence juive très importante, que ce soit à Jérusalem, à Gaza, en Galilée ou dans d'autres régions. Donc le sionisme a toujours été au cœur du judaïsme. Et il ne s'agit pas de définir le sionisme uniquement comme un mouvement idéologique. Il y a avant l'idéologie, qui est dans le monde moderne, la façon dont on a mis en place, si vous voulez, la reconstruction d'un État, il y a avant l'idéologie, il y a des valeurs juives profondes qui rappellent tout le temps Sion. Et comme tout le monde, tu fais un Seder de Pessah, et donc l'an prochain à Jérusalem, c'est une phrase qu'on dit à la fin du Seder de Pessah, et dans toutes les prières, 4-5 fois par jour, on répète que Sion et Jérusalem font partie de ce rêve. Donc l'espérance d'un retour en terre d'Israël, elle a toujours existé depuis, je dirais, la destruction du deuxième temple en 70 de notre ère.
Alors il y a cette espérance, il y a ces mouvements qui ne s'appelaient pas encore sionistes, et il y a également des mouvements qui sont nés avant Herzl. Qu'est-ce qui a fait que le mouvement de Herzl, le sionisme d'Herzl, lui, a abouti et pas les autres ?
Alors je crois qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui sont liées à la fois à la personnalité de Theodor Herzl, qui sont liées aussi aux circonstances dans lesquelles ce mouvement sioniste moderne s'est mis en place, s'est fondé. Et puis je crois qu'il y a aussi quelque chose de fondamental que Herzl a compris et peut-être que d'autres n'avaient pas compris. Et je vais un peu expliquer cette différence. Si vous voulez, les mouvements sionistes ont existé avant Herzl, notamment des mouvements qui se sont créés en Russie, en Europe de l'Est, comme les Amants de Sion ou les Bilouim, et donc toutes sortes de mouvements qui avaient des buts extrêmement précis, qui étaient soit des buts spirituels, c'est-à-dire remettre la centralité de Sion dans le judaïsme, soit des buts de colonisation, d'installation en Israël, comme par exemple les premières colonies juives qui ont été créées dans les années 1870-1880. Et donc le but, c'était de s'installer tout simplement en Israël, mais il n'y avait pas de projet politique. Et donc cette vision politique, je dirais, globale, cette vision de la politique en général, les autres, le mouvement ne l'avait pas. Il y a eu des précurseurs, notamment deux rabbins, qui ont créé des mouvements de retour pour essayer de recréer une souveraineté juive en terre d'Israël, le rabbin Al-Kalai, le rabbin Kalischer, qui étaient des juifs très religieux et qui voulaient justement revenir en terre d'Israël pour créer une espèce de dynamique pour ramener des juifs en Israël, mais à aucun moment ils n'avaient de vision véritablement politique. Et la différence peut-être de Herzl, et ça c'est peut-être, je dirais non pas anecdotique, mais peut-être un peu paradoxal, c'est que Herzl finalement a réussi parce qu'il était un juif assimilé, il avait très peu de connaissances du judaïsme, et donc quand il est entré, je dirais, dans le sionisme, il est entré avec une certaine virginité. Mm-hmm. Il ne connaissait pas les institutions juives, il ne connaissait pas le monde rabbinique, il ne connaissait pas l'hébreu, sa culture juive était extrêmement limitée. Il était un journaliste qui vivait à Paris et qui a été témoin de l'affaire Dreyfus. Et qui donc a été touché, non pas seulement par le caractère, je dirais, violent de ce qui s'est passé au moment de l'affaire Dreyfus, bien évidemment, mais aussi par quelque chose qui était extrêmement important pour lui, qui était la fierté. Et donc l'honneur juif, quelque part. D'accord. Et ça, cette vision-là, c'est très particulier à Herzl, c'est que le sionisme, c'est une façon de redonner aux juifs une forme de fierté. Mmh. Alors, lorsqu'il écrit son livre, c'est assez curieux, il écrit ça à Paris. Il vit à l'époque rue Cambon, dans un hôtel. Il est journaliste, sa famille est restée à Vienne. Donc lui est né à Budapest, on reviendra, on fera une émission sur Herzl, donc on aura l'occasion de parler de la personnalité de Herzl. Mais lorsqu'il écrit son état, son livre, il appelle ça l'état des Juifs, et non pas l'état juif. Mm-hmm. C'est-à-dire, on est en allemand Judenstadt, et non pas Judenstadt. C'est-à-dire, ça n'est pas, au début, il ne pense pas à un état juif, il pense à un état pour les Juifs.
Pour les Juifs, oui.
C'est-à-dire un état pour les Juifs qui sont en détresse, qui souffrent. Et donc, cette vision-là, il dit, c'est le seul moyen de résoudre non pas la question de l'antisémitisme, parce qu'il n'avait absolument aucune illusion là-dessus.
Mais de protéger les Juifs.
Mais de protéger les Juifs, de leur donner au départ un asile, de leur donner un refuge, un endroit où ils pourront vivre fièrement. Et donc, être, non pas résoudre ou guérir l'antisémitisme, qui est une maladie apparemment incurable, mais simplement se trouver en face de nos ennemis, comme un adversaire, et de leur dire, voilà, respectez-nous en tant qu'adversaire. Donc ça, c'est cette première vision. La deuxième vision, c'est que le sionisme ne va pas guérir l'antisémitisme, mais c'est une réponse, d'une certaine façon, à une question que les Juifs se sont posées, qui était la question de l'assimilation et de l'intégration. L'affaire Dreyfus a été peut-être l'événement le plus tragique de ce point de vue-là. Parce que ça se passait en France, le pays qui avait le premier donné aux Juifs une forme d'émancipation à titre individuel. Et le sionisme, au fond, c'était une façon de dire, puisqu'on n'arrive pas à s'intégrer, et l'affaire Dreyfus, c'était un problème d'intégration, puisqu'il s'agissait d'un officier juif totalement assimilé, qui était dans l'armée, dans les services de renseignement, donc dans l'endroit peut-être le plus sensible de l'armée. Et donc, c'était un échec de l'intégration. Mmh. Et donc, si en France, le premier pays, le pays de la Révolution française, l'intégration, l'assimilation échouait, il fallait donc trouver autre chose. Et le sionisme a été cette réponse. Alors ça, c'est le premier élément. Mais ce que Herzl a réussi à faire, et pour ça, je dis que c'est en cela qu'il est visionnaire, c'est qu'il a réussi, par son pragmatisme, et c'est peut-être ça la différence entre lui et les amants de Sion, qui étaient des rêveurs, qui étaient des intellectuels, qui étaient des poètes, qui avaient souvent de grandes cultures juives, qui connaissaient le judaïsme parfaitement, mais qui n'avaient pas ce pragmatisme qu'a eu Herzl. Herzl a, dès le départ, considéré qu'il fallait créer une organisation avec des structures, avec des institutions, avec de l'argent, avec, je dirais, une organisation dans tous les pays où il y avait des communautés juives. Et donc, dès le départ, il a conçu le mouvement sioniste, et c'est peut-être ça, je dirais, la réussite du mouvement sioniste. Il n'a pas conçu ça comme un mouvement idéologique, mais comme un mouvement entièrement pluraliste. Et donc, un mouvement dans lequel pouvaient coexister des juifs religieux, des juifs laïcs ou non-croyants, où des juifs pouvaient être séfarades, ashkénazes, venir du fin fond de la Russie ou du fin fond du Maroc ou d'autres pays. Et donc que tous ces gens-là pouvaient se retrouver autour d'une idée assez simple qui était la création d'un État juif. Et dans les débats sur notamment quelle va être la nature de cet État, Herzl avait des conceptions qui n'étaient pas très claires. Il ne savait pas exactement quel type d'État il allait créer. Il voulait simplement créer un État moderne. Mmh. Et je crois que c'est probablement, d'une certaine façon, Herzl rejoint, dans la pensée politique moderne, il rejoint Spinoza.
D'accord.
Parce que Spinoza, ça a été peut-être dans le judaïsme le premier penseur de la modernité. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait, nous, juifs modernes, dans la modernité, comment on maintient le judaïsme à travers ou dans une société qui vit dans la modernité. Et donc, dans le traité théologico-politique, Spinoza parle déjà du retour des juifs, en disant lorsque les juifs, juifs ne pourront plus vivre avec la même religion qu'ils avaient, ils vont donc être obligés de vivre avec la modernité, dans un monde moderne, et le seul moyen pour eux de survivre, ce sera un État. Alors, Herzl, d'une certaine façon, mais peut-être Spinoza le remet sur ses pieds, mais il dit, au fond, il nous faut un État moderne, un État efficace, qui réponde aux règles des États modernes, c'est-à-dire avec un pouvoir politique, avec une armée, avec des moyens économiques, et donc une vie sociale, et surtout avec des règles de justice dont il parle. Mais Herzl, par exemple, n'était pas un grand démocrate.
Oui.
Il n'était pas tout à fait pour la démocratie au sens d'une grande démocratie parlementaire, parce qu'il disait, au fond, les Juifs, ils auraient créé un État après 2000 ans, ils n'ont pas l'habitude de la politique, il faut qu'ils retrouvent une certaine façon leur façon de vivre en commun, et non pas dans le cadre d'une communauté, mais dans le cadre d'un État, dans une société civile. Et ça, ce modèle-là, Herzl l'a forgé à partir de sa lecture, je dirais, de l'histoire et de l'histoire qu'il avait connue, lui, puisqu'il était citoyen de ce qu'on appelle l'Empire austro-hongrois, où il y avait justement beaucoup de problèmes nationaux entre tous les peuples qui étaient réunis dans cet Empire austro-hongrois.
Il me semble aussi que Herzl et son sionisme, il a compris l'importance aussi de traiter avec l'international, de traiter aussi avec les autres pays et de ne pas rester en vase clos. Est-ce que c'est aussi ce qui a fait la force de son sionisme ?
Alors je crois que dès le départ, le sionisme herzlien, si on peut dire comme ça, a été un sionisme qui s'est voulu politique au sens large, à savoir on négocie avec les chefs d'État, on négocie avec le Vatican, on négocie avec des organisations internationales, on a besoin d'avoir une reconnaissance juridique internationale d'un État, et donc il faut commencer par le haut, si je peux dire, et non pas par le bas. C'est là peut-être la différence entre le sionisme de Herzl et le sionisme des autres mouvements qu'on a connus, comme les Bilouim, qui sont partis s'installer, qui ont créé des fermes agricoles, et qui ont dit, bon, ben, on va retrouver la terre d'Israël, on va construire, on va cultiver, et au bout du compte, peut-être qu'on va créer un État.
C'est-à-dire que ce n'était pas seulement philosophique, leur mouvement à eux.
C'était un mouvement concret d'installation, avec des fermes, avec un travail de retour à l'agriculture. Mais Herzl disait, il faut d'abord une structure, il faut un État, il faut le droit international, il faut une reconnaissance des autres peuples, et ça, on peut l'obtenir uniquement que quand on traite d'égal à égal. Alors, quelque part, on surnommait Herzl le roi des Juifs, parce qu'effectivement, il s'était nommé lui-même, d'une certaine façon, le roi des Juifs, et quand il allait rencontrer les chefs d'État, il allait négocier, d'une certaine façon, d'égal à égal, même s'il ne représentait, il n'y avait pas d'État derrière lui, mais il disait, je suis le chef de l'État qui n'existe peut-être pas encore, mais je viens ici en tant que roi des Juifs. Il est allé rencontrer le pape en disant, voilà, si le Vatican nous soutient, peut-être qu'on va se convertir au christianisme. Donc il faisait des tas de promesses, comme les grands hommes politiques. Il est allé rencontrer le ministre de l'Intérieur russe, qui était connu étant un grand antisémite, pour négocier en disant, on va négocier sur la base d'intérêts. Vous n'aimez pas les Juifs, vous avez intérêt à ce qu'ils partent. Moi, je vous les emmène quelque part. Donc, c'était quelque part une façon de négocier. Et je pense qu'il a été extrêmement, intelligent dans sa vision pragmatique. L'autre aspect, c'est qu'il a réussi, en l'espace d'un an, à créer ce qu'on a appelé le congressionniste, qui s'est réuni à Bâle. Un an après la rédaction, la publication du livre « L'État des Juifs ». Et cette première réunion a été extrêmement impressionnante, puisqu'il y avait des représentants de tous les pays. Et il a parfaitement compris qu'il fallait avoir une organisation, je dirais, à l'échelle internationale, avec des représentants de pays élus d'une certaine façon, et avec un congrès politique, comme le faisaient les grands partis.
Pourquoi est-ce que des grands hommes comme, par exemple, Rothschild étaient pas forcément pour le sionisme de Herzl?
Alors, c'est la grande découverte de Herzl, c'est que justement son ignorance du judaïsme, c'est qu'il s'est rendu compte dès le départ que finalement les communautés juives et ses dirigeants surtout, peut-être que les masses populaires voulaient avoir un État, voulaient retrouver la terre d'Israël, mais les dirigeants, ils n'étaient pas tellement intéressés, ils étaient prêts à aider, mais pas forcément à s'impliquer, et donc il s'est tout de suite heurté à une opposition.
Pourquoi ?
Bien parce que les Rothschild, par exemple, qui représentaient, ou le baron Hirsch, ils avaient, eux, des intentions personnelles, je dirais, de rester là où ils étaient, de se développer, de s'intégrer économiquement et socialement. Et ils considéraient que le sionisme, ce n'est pas pour eux, c'était pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui souffraient, pour ceux qui étaient victimes de l'antisémitisme, et eux pensaient pouvoir y échapper.
D'accord. Qu'est-ce qui différencie le sionisme des autres mouvements d'anticipation nationale, d'émancipation, pardon, nationale ?
Je crois qu'il y a une grande différence, c'est justement sur la nature du lien avec cette terre, la terre d'Israël. Et on va peut-être écouter une chanson qui nous parle de ce qu'est la terre.
D'accord.
השמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה. ארץ שנאהב, היא לנו אם ואב, ארץ של
Ah!
Belle chanson, non ?
Belle chanson qui parle de la terre. Bah justement, ces fameux autres mouvements nationaux d'émancipation, eux, ils voulaient se libérer d'un occupant ou changer de régime. Nous, enfin, en tout cas les sionistes, c'était autre chose.
Bah, déjà, la notion de terre est différente. C'est-à-dire que le sionisme commence, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Abraham. Abraham, il ne va pas sur sa terre. Dieu lui dit, « Lech lecha, va sur la terre que je... » J'ai promis à ton peuple. Et donc, Moïse, il ramène les Juifs sur une terre. C'est la terre d'Israël, est une terre promise. Donc, nous ne sommes pas dans l'idée uniquement de revenir à des racines, au sens physique. Ce n'est pas le terroir pour nous. Pour nous, la terre d'Israël, c'est une demeure à laquelle nous appartenons et sur laquelle l'esprit judaïste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Torah, s'est développé. Nous avons eu cette loi... historiquement, pour justement construire sur cette terre d'Israël. Et donc, lorsqu'on dit, il y a une chanson d'ailleurs des premiers sionistes qui dit « Nous sommes venus en Israël pour construire et pour nous construire ».« Banu l'Eretz Israël, livnot ou lehi banot oui. ». C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de construire des maisons avec des pierres et des bouts de des fenêtres et des toits, mais il s'agit de construire une demeure au sens aussi spirituel. Donc nous avons un lien avec cette terre qui est un lien moral, qui est un lien qui nous engage non pas parce que nous en sommes, je dirais, des originaires, mais parce que nous en sommes les dépositaires. Et donc, dans l'idée du judaïsme, il n'y a pas de propriété de la terre. La terre appartient, si vous voulez, à Dieu. Nous en sommes les dépositaires à condition que nous nous comportions bien avec elle, à condition que nous la cultivions. C'est-à-dire que si nous laissons cette terre aride, désertique, et que nous exploitions cette terre trop, eh bien, nous allons la perdre. Et donc, c'est pour ça que dans l'idée du sionisme, il y a ce lien fondamental qui est l'appartenance à la terre, plus que l'idée d'avoir des racines et de revenir à des racines. Donc, c'est une première différence avec les autres mouvements. Et puis, il y a aussi d'autres aspects. Les mouvements de libération nationale qu'on a connus en Europe étaient les mouvements de gens qui habitaient déjà sur leur propre terre, qui parlaient déjà leur propre langue, et qui donc voulaient simplement, comme vous l'avez dit, se libérer d'occupants étrangers ou éventuellement d'un régime politique contre lequel ils combattaient. Pour nous, c'est tout à fait différent. Il s'agit de revenir sur une terre à laquelle nous appartenons, non seulement qui nous appartient, mais à laquelle nous appartenons. Même lorsque nous ne sommes pas physiquement sur cette terre, nous appartenons à cette terre. Et donc, il ne s'agit pas... de dire que les pierres sont sacrées, ça n'est pas les pierres qui sont sacrées. Dans le judaïsme, c'est le temps qui est sacré. C'est ce que nous faisons de cette terre, ce que nous faisons de notre vie, c'est ça qui va compter. Et au fond, c'est pour ça peut-être qu'à certains moments, on dit de la terre d'Israël qu'elle dévore ses propres habitants. Lorsque ses habitants se comportent mal, bien cette terre dévore ses habitants parce qu'ils n'en sont pas, ils n'en sont plus les dépositaires au sens moral. Donc je pense que ce lien d'appartenance, il est extrêmement important. Et c'est pour ça que le sionisme n'est pas une idéologie, c'est un projet. C'est une espèce d'aventure humaine. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une espèce d'aventure existentielle. C'est quelque chose vers lequel nous allons. Personne ne savait, au début du sionisme, et Herzl le premier, personne ne savait où on allait. La phrase de Herzl, bien connue, si vous voulez, ce ne sera pas un rêve, c'est justement parce que c'était un rêve. Et que donc, il ne savait pas lui-même où il allait aller. Et certains sionistes disaient, bon, d'abord, on va créer un État et on verra ce qui va se passer. Bon, maintenant, on voit à peu près ce qui se passe. Mais l'idée, c'est qu'il y a, malgré tout, dans cette alliance entre un peuple, une terre et une loi aussi, c'est, je veux dire, ce triangle-là, on ne peut pas le séparer, au fond. Et ça, ça a été la base du sionisme. Même lorsque des gens, et au début, les premiers sionistes ont été plutôt des gens de gauche, ils étaient plutôt socialistes. Les premiers dirigeants, je dirais, après Herzl, ont été plutôt des sionistes socialistes ou avec une idéologie, disons, plutôt à gauche, même certains marxistes. Certains voulaient une société égalitaire. On connaît les kibboutzim, toutes les réalisations du sionisme. Malgré tout, c'était des gens qui avaient une connaissance de la Bible et qui tiraient ces idées de justice sociale du texte biblique aussi, même lorsqu'ils n'étaient pas eux-mêmes religieux. Alors, c'est bien pour ça que lorsque on parle de sionisme, on ne dit pas on a créé un État d'Israël. On dit nous revenons en Israël, nous retournons. C'est un retour, c'est un mouvement de retour et qui n'est pas seulement un retour à la terre, physiquement, mais qui est aussi un retour aux sources mêmes du judaïsme. Et d'ailleurs, Herzl le dit un moment dans son journal, il dit le sionisme est aussi un retour au judaïsme, à une autre forme de judaïsme dans le monde moderne. Alors évidemment, ce qui a été très curieux, et je disais tout à l'heure, c'est que souvent les autres mouvements nationalistes ont vu dans le sionisme quelque chose d'intéressant et ont soutenu. Alors que les juifs, par exemple, très religieux et orthodoxes, ont considéré que c'était une forme d'hérésie, parce qu'il ne fallait pas précipiter l'histoire, ça n'était pas à nous, de faire, nous les hommes, de faire revenir le peuple juif en terre d'Israël, de rassembler les exilés, mais c'était le rôle de Dieu.
Pourtant, il y avait un sionisme religieux.
Il y a eu après un sionisme religieux.
Après, d'accord.
Mais au départ, le sionisme s'est heurté à une opposition de la part de ce qu'on pourrait appeler l'establishment religieux orthodoxe. Alors, dans le cadre de, je dirais, du mouvement sioniste, il y a eu dès le départ des sionistes religieux qui étaient extrêmement minoritaires. Il faut savoir qu'en Pologne, en Russie, lorsque des juifs adhéraient au mouvement sioniste, ils étaient exclus de certaines communautés, et notamment des communautés orthodoxes qui considéraient que c'était une forme d'hérésie, c'était une forme de rébellion contre la religion, parce que justement, nous attribuions un rôle qui n'était pas le nôtre. Les hommes n'avaient pas à précipiter l'histoire, c'est Dieu qui décide, et donc ce rassemblement des exilés ne doit pas être fait par les hommes, mais par Dieu. Et c'est la base, si vous voulez, de l'idée messianique, à savoir, c'est quelque chose qui doit se passer dans l'histoire, mais ce n'est pas à nous de dire comment et de mettre en œuvre ce projet. Alors, il y a dans le mouvement sioniste des juifs religieux qui, dès le départ, ont compris que, justement, il y avait dans le sionisme un mouvement qui pouvait être une forme de rédemption aussi, ou en tout cas un début de rédemption. On en reparlera à propos du Rav Kook, mais il y a une idéologie, il y a un mouvement ou une tendance, une mouvance, si vous voulez, dans le sionisme, qui est religieux et qui dit, finalement, c'est une façon de mettre en marche ce processus messianique. Ça n'est pas encore l'avenue du Messie, mais c'est faire avancer un petit peu les choses.
D'accord. Les autres mouvements, on va dire, sionistes, on parlait du sionisme socialiste et également du sionisme national. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, même si on rentrera dans les détails plus tard?
Comme j'ai dit tout à l'heure, le mouvement sioniste, dès le départ, c'est voulu un mouvement pluraliste. Et donc, n'a pas voulu imposer une idéologie quelconque, en tout cas, une conception du monde, à savoir quelle serait la nature, est-ce que l'État serait un État libéral, un État socialiste, un État... Et donc, Herzl a considéré qu'il fallait accepter tout le monde et que l'unique objectif, c'était, comme c'était défini dans le programme de Bâle du premier congrès sioniste, c'était le retour des Juifs sur leur terre et la création d'un foyer juif qui amènerait à la création d'une société, d'un État, et les citoyens de cet État décideraient de la nature de ce régime. Alors, bien évidemment, il y avait dans les communautés, notamment d'Europe de l'Est, il y avait déjà des mouvements socialistes, et notamment des mouvements qui avaient été plus ou moins liés au mouvement ouvrier, marxiste ou néo-marxiste, ou plus ou moins ouvrier. Et donc, dans ces même des gens comme Tolstoï, par exemple, qui était ce qu'on appelle un peu la gauche, je dirais peut-être un peu mystique, mais malgré tout, une gauche, je dirais, de mouvement ouvrier, issu de mouvement ouvrier. Et donc, ces Juifs qui vivaient en Europe de l'Est étaient inspirés par ces idées-là. Et ils ont considéré que si déjà on recréait une nouvelle société, il fallait que cette société soit dès le départ, puisqu'on arrivait sur un terrain vierge, finalement. Donc, on pouvait créer une société juste dès le départ, égalitaire. Et donc, c'est de là que sont venues les grandes expériences que l'on a connues, comme les kibboutzim, mais aussi les expériences, je dirais, de type socialiste, avec les syndicats. Et donc, on a essayé, dès le départ, de créer une société juste et égalitaire. Et puisqu'on avait la possibilité, il n'y avait pas de classe... il n'y avait pas de capitaliste, il n'y avait pas de pauvres. Donc, on était sur une base, comme on dit, tabula rasa. On pouvait donc créer, dès le départ, une société sans avoir besoin de faire la révolution. Et une révolution du prolétariat. Et donc, on avait la possibilité de faire une espèce de laboratoire. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un laboratoire social pour voir comment fonctionnait une société qui, dès le départ, était créée sur des bases égalitaires. Ça, c'était l'idée des sionistes socialistes, qui ont été majoritaires au début, qui ont été majoritaires même dans les premières années, les premières décennies même, de l'État d'Israël, qui ensuite est devenu un petit peu... Voilà, le rêve a un petit peu changé. Herzl lui-même, à titre personnel, était plutôt un libéral. C'était plutôt quelqu'un qui avait des idées plutôt à droite, disons. Aujourd'hui, on dirait à droite, même si c'est un peu différent. Et puis, il y avait d'autres tendances. Il y avait notamment une tendance dont on parle peu, mais qui a été extrêmement importante dans le mouvement sioniste. C'est ce qu'on appelle le sionisme culturel, fondé sur, justement, les idées des amants de Sion, et notamment de ceux qui étaient vraiment imprégnés de culture hébraïque, notamment à Hadam, et qui ont considéré qu'il fallait créer non pas une société égalitaire et juste sur la base économique, mais qu'il fallait créer une nouvelle culture juive. Et que cette culture juive nouvelle, elle allait se fonder sur quoi ? Sur l'hébreu, sur une autre façon de vivre le judaïsme au sens culturel, et plus seulement au sens religieux. Et ça, c'est extrêmement important parce que on a assez peu parlé de cette influence, mais au fond, ceux qui ont donné, je dirais, ceux qui ont donné les dirigeants des premiers dirigeants du mouvement sioniste à part Herzl, c'était justement ceux qui venaient de ces mouvements des amants de Sion, ceux qui venaient de ces mouvements qui étaient inspirés par un sionisme culturel, à savoir des gens qui étaient, connaissaient bien le judaïsme, qui connaissaient l'hébreu, et qui donc ont essayé de, comme on dit, de donner un contenu à ce mouvement sioniste sur le plan culturel. Et donc c'est eux qui ont amené, bien évidemment, la révolution dont on parlera dans une autre émission de l'hébreu, mais aussi toute cette culture, ce qu'on appelle la culture moderne juive, et la culture moderne israélienne, la peinture, le théâtre, tout ça, c'est venu justement de ce sionisme culturel qui disait, dans un nouveau pays, il va falloir créer une nouvelle culture. Et une culture, au sens moderne, pas seulement cette culture qui est la nôtre, qui est celle du judaïsme, religieux, traditionnel, orthodoxe ou pas orthodoxe, mais créer un judaïsme moderne. Avec de la littérature, avec de la peinture, avec du théâtre, avec tout ce que peut représenter un monde culturel. Et donc cette construction de la société israélienne moderne avant l'État d'Israël, c'est justement ce sionisme culturel, et notamment à Hadam, qui a posé les vraies questions. Autrement dit, est-ce que notre modèle social, c'est les prophètes, ou est-ce que ce sont... Oui, donc il y a beaucoup d'idées qui ont été, si vous voulez, transformées ou modernisées ou traduites de la Bible dans l'ère moderne.
Est-ce que vous pouvez nous parler également rapidement des différentes organisations qui ont découlé du premier congrès sioniste et justement qui ont essayé de mettre en place toutes ces idées différentes en fait qui...
Alors je crois qu'Herzl a eu dès le départ une vision extrêmement pragmatique, je disais. Savoir que pour créer un mouvement politique, il faut d'abord avoir de l'argent, il faut avoir des soutiens politiques et il faut aussi avoir des institutions qui sont élues et qui sont solides et qui sont réparties à travers, je dirais, un réseau d'organisations très solides. Et donc je crois que ça, il a parfaitement compris et il a réussi à mettre en place une vraie structure qu'on appelait l'Organisation sioniste mondiale, qui a été issue du premier congrès sioniste. On a créé cette Organisation sioniste mondiale, qui fonctionnait sur la base de cellules dans chaque pays, avec des élections, et avec, chaque année ou chaque deux ans, un congrès avec des représentants, avec un bureau exécutif, et comme un parti politique, comme une vraie organisation politique au sens moderne. Ce que n'avait fait aucun autre mouvement sioniste. Les autres, c'était un petit peu des organisations comme ça. Ils faisaient beaucoup de culture, ils publiaient des textes, ils publiaient des journaux, ils publiaient des livres. Mais ils n'avaient pas, je dirais, ce nerf de la guerre et donc cette vision qu'il fallait aller obtenir des gains politiques. Et donc, dès le départ, Herzl a considéré qu'il fallait aller négocier au titre de cette organisation sioniste mondiale avec les partenaires éventuels. Quels étaient les partenaires ? D'abord, le premier partenaire, c'était l'Empire ottoman, puisque l'Empire ottoman était, l'autorité qui gérait la Palestine de l'époque. Et donc, il est allé voir, dans un premier temps, l'Empire ottoman pour essayer de négocier, et lui dire, voilà, on va éventuellement négocier, peut-être acheter, peut-être payer, peut-être... Et donc, il a créé une autre organisation, au sein même de l'Organisation sioniste mondiale, c'est un fonds pour acheter des terres. Ce qu'on a appelé le Keren Kayemet l'Israël, c'est-à-dire le Fonds national juif, dans le but d'aller sur place et de racheter les terres pour ensuite les développer et créer des villages. Donc ça, c'était extrêmement pratique, pragmatique, acheter des terres à ceux qui en étaient les propriétaires. Encore une fois, on pense parfois qu'il n'y avait que des Arabes, mais les propriétaires des terres, c'était parfois des Allemands, c'était parfois des gens privés, c'était parfois les Turcs. Donc il y avait toutes sortes de propriétaires, et la plupart des terres, d'ailleurs, n'appartenaient à personne, puisqu'il n'y avait pas de droit de propriété. C'était ce qu'on appelle des terres domaniales. Mm-hmm. Donc le KKL avait pour but d'aller sur place, d'acheter des terres et de les développer, c'est-à-dire défricher les terrains, les mettre en valeur et commencer des projets d'agriculture. L'autre organisation, c'était le Keren Hayesod, qui existe encore aujourd'hui, qui avait pour but aussi de créer des institutions sociales et donc de développer ce pays. Et puis il a créé quelque chose qu'on connaît tous en Israël, c'est la banque Leumi.
D'accord.
Il a créé une banque, tout simplement, pour ramasser de l'argent et pour aller donc collecter des fonds, ramasser de l'argent afin de développer. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas tout à fait la banque Leumi, ça s'appelait la banque Leumi de Palestine, quelque chose comme ça. Et donc cette banque Leumi a aidé, au fond, à ramasser des fonds et à acheter et à aider, par exemple, c'est la banque Leumi qui prêtait de l'argent au KKL pour pouvoir acheter. Donc on ignore, mais parfois, par exemple, des institutions comme le Ternillon, comme d'autres institutions en Israël, ont été achetées avec l'argent que la banque Leumi prêtait au KKL. Voilà, un état d'histoire comme ça. Et lui-même a passé les 7 années de sa vie au congressionnisme. Bon, il est mort à l'âge de 44 ans. Mais pendant 7 ans, il a dirigé le mouvement sioniste à aller négocier et à aller voir tous les dirigeants de la planète qui acceptaient de le rencontrer pour justement essayer de voir avec eux comment ils pouvaient faire avancer ce projet. Et c'est ça qui a été peut-être la différence entre Herzl et d'autres. C'est que lui, il s'est tout de suite présenté comme un dirigeant politique. Et lorsqu'il est venu en terre d'Israël, il a découvert qu'il y avait des Juifs qui étaient là, ce qu'il ignorait. Par exemple, il ne savait pas qu'il y avait autant de Juifs qui vivaient en Israël, en Palestine de l'époque. Notamment lorsqu'il arrive à Jérusalem et qu'il se rend compte que la majorité de la population qui vit déjà à Jérusalem est juive. Alors ce sont des Juifs qu'il n'a jamais rencontrés de sa vie. Des Juifs qui sont des séfarades, au sens des séfarades anciens, c'est-à-dire qui sont là depuis plusieurs générations, qui parfois parlent l'hébreu, pas tout à fait l'hébreu moderne, mais qui parlent une forme d'hébreu, qui parlent un peu l'arabe aussi, et donc qui sont des gens... le type de juif qu'il n'a jamais rencontré. C'est tout à fait nouveau pour lui. Et donc, il se dit, mais ces gens-là vont construire. Et donc, il est extrêmement enchanté de rencontrer ces gens-là. Il y a une scène qu'il racontait dans ses mémoires, lorsqu'il arrive à l'hôtel et qu'il a des grandes malles, et puis c'est un tout petit escalier, il n'arrive pas à monter l'escalier, alors on lui dit, ne t'inquiète pas, il y a ici des porteurs de juifs de Salonique, et leur spécialité, c'est de porter les bagages. Et il est assez impressionné, il dit, mais ces gens, des juifs qui font des métiers comme ça, pour lui, les juifs étaient tous des avocats ou des médecins, mais il se rend compte qu'il y a des porteurs de Salonique, et qui sont une grande spécialité, ils sont capables de faire passer une malle, alors qu'apparemment, ils ne pouvaient pas monter l'escalier. Et donc, il dit, quand on a des juifs comme ça, eh bien, ça veut dire que nous sommes un vrai peuple. Et donc, il y a de tout dans notre peuple et nous allons réussir. Alors après, il y a des débats au sein du mouvement sioniste sur justement ce qui se passe, parce que c'est une période difficile pour le peuple juif. Il y a des pogroms, il y a d'antisémitisme, notamment en Europe de l'Est, notamment le grand pogrom qui va des grands pogroms qui vont le convaincre finalement de trouver une solution plus rapide. Là, on en reparlera à propos d'Herzl sur le projet d'Ouganda,
oui.
Mais quelque part, Herzl a dans l'idée qu'il faut sauver les Juifs, voilà, dans l'urgence. Et pour lui, c'est vraiment, il agit en tant qu'homme politique. Il est un homme politique qui veut absolument résoudre des problèmes concrets. Il est dans le concret. Mmh. Il n'est pas dans l'idéologie. Il n'est pas dans le. Lorsqu'il y a un débat, par exemple, sur l'hébreu, pour lui, il ne comprend pas comment les gens vont parler hébreu. Pour lui, la langue naturelle des Juifs, c'est l'allemand ou l'anglais, mais ou le russe. Mais le comment ces gens vont parler hébreu ? Lui-même, il sait. Pour lui, c'est une langue morte, une langue ancienne. Et lorsqu'il voit la naissance de l'hébreu moderne, alors il ne s'oppose pas. Mais il dit, moi, je ne comprends rien, je ne suis pas dans ce... Mais il laisse faire.
Mmh.
Et c'est ça, peut-être, la grandeur, je dirais, du mouvement sioniste. C'est un mouvement qui a laissé faire un certain nombre de mouvements, qui les a laissés se développer en son sein, et qui a permis, justement, d'avoir ce pluralisme culturel, politique, idéologique au sein du sionisme. Évidemment, c'était les grands débats, les élections étaient extrêmement houleuses, les débats extrêmement virulents, avec des motions, avec toutes sortes de magouilles, même politiques, au sein du mouvement. Quand on lit les actes des congrès sionistes, c'est assez chaud, on s'envoie des pics à droite et à gauche, et puis il y a quand même, disons, une certaine domination des juifs ashkénazes, mais d'un autre côté, il y a les juifs séfarades qui viennent et qui disent « Mais nous, on n'est pas exactement dans la même situation que vous, notamment les juifs d'Algérie, notamment les juifs qui avaient déjà des droits, qui étaient déjà français, donc ils disent « Attendez, nous, on est dans une autre... » Et puis, par exemple, ils découvrent l'existence d'autres organisations qui travaillent déjà sur la terre d'Israël, comme l'Alliance israélite universelle. Mm-hmm. Mikvé Israël, ça existait. Donc, il y avait déjà des choses qui découvrent lui-même en Israël, en Palestine, de l'époque. Et donc, il comprend qu'il faut rassembler toutes ces énergies, les mettre ensemble.
D'accord.
C'est assez important de comprendre ça.
בנקודה שבה הכל מתחיל תגיד לי האם ליבך בוכה מאושר או כאב האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף עומדים על שביל חיים חוזרים הביתה שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה בנסיעות הארוכות הייתי שר לה האם על מה שבאמת קרה לך עומדים על שביל חיים בתוך החושך שים לב הטוב מגיע בדממה דקה שהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר הרעש הגדול מכסה את השתיקה בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע האם פגשת לפעמים את הבדידות הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב עומדים על שביל חיים חוזרים הביתה שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה בנסיעות הארוכות הייתי שר לה האם על מה שבאמת קרה לך עם השביל חיים בתוך החושך. שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה, בנקודה שבה הכל מתחיל בלי רשע. האם אפשר לחיות בתוך בועה? תקשיב לרוח וללב, יש צל חומק שם, להתראות באיזו הופעה.
Magnifique chanson.
Herzl... Alors, chanson de Arik Einstein, regretté Arik Einstein, qui est décédé il y a peu de temps, et Shlomo Arzi qui s'appelle Chozrim Habayta. On retourne, on revient à la maison.
Alors ce fameux retour à la maison, est-ce qu'il a vraiment eu lieu ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je crois que le sionisme a été un retour sur une terre qu'on a voulu construire comme une demeure, comme quelque chose qui est à nous. Et la demeure, ça n'est pas seulement... quelque chose d'extérieur, c'est aussi se sentir chez soi. Et je crois que Herzl, il ne s'en sentait chez lui nulle part. Mm. Herzl, c'est un personnage tragique, on y reviendra quand on parlera de, plus spécifiquement de lui, c'est un personnage un peu tragique, mort assez jeune, qui s'est trouvé justement dans ce débat sur l'Ouganda qu'on a évoqué, où tout d'un coup il s'est rendu compte que la force de retour vers la maison de nos ancêtres, c'était plus important peut-être même que sauver des juifs dans l'immédiat. Et donc c'est peut-être ça, cette, je dirais, ce petit pincement au cœur qu'on a quand on pense à Herzl, parce que finalement, il a été désavoué par le mouvement qu'il a créé, qui a rejeté son projet pour sauver des juifs, mais évidemment c'était une solution temporaire, provisoire. Pour lui, c'était vraiment sauver des juifs qui étaient menacés, en danger. On sait ce que ça veut dire après, on a compris après ce que pouvait dire ce danger extrêmement grave. Et lui, quelque part, il voulait résoudre des problèmes tout de suite. Et en tant qu'homme politique, il n'avait pas le temps. Et donc, ce retour à la maison, il s'est fait. Il s'est fait dans la douleur. Il s'est fait aussi dans un déchirement, parce que le mouvement sioniste, et ça c'est un point qu'on ignore sur le plan historique, le mouvement sioniste a été très très minoritaire. Dès le départ.
Minoritaire, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire dans le peuple juif, le nombre d'adhérents au mouvement sioniste n'était pas très important. D'autres mouvements qui ont aujourd'hui disparu, comme par exemple le Bund, qui était un mouvement socialiste juif en Europe de l'Est, était au départ beaucoup plus important que le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste a au départ été, je dirais, un mouvement très minoritaire, qui représentait peu de gens finalement sur l'ensemble du peuple juif, encore une fois, et dont, je dirais, légitimité s'est faite petit à petit. Alors même s'il y avait par exemple des grands philanthropes juifs qui acceptaient l'idée que des juifs retournent en Palestine, mais ils n'étaient pas sionistes au sens de l'engagement, ils n'étaient pas prêts à aller se battre et à aller éventuellement se battre, comme on l'a vu après dans la guerre d'indépendance, pour libérer cette terre s'il le fallait. Ils considéraient que c'était un projet de type philanthropique. Or, s'il y a quelque chose que le sionisme n'est pas, c'est du philanthropisme. Mmh. Ça n'est pas de la philanthropie, c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui, lorsqu'on est sioniste, vous et moi, Stéphane, on est un peu sioniste, c'est quelque chose qui change la vie. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose auquel on adhère, c'est pas, on prend pas la carte d'un parti politique, c'est pas uniquement du militantisme, au sens, je dirais, au sens banal, c'est un engagement qui engage, qui donne du sens à la vie. Et ça, je pense que le sionisme a été quelque part un mouvement qui a donné du sens au peuple juif au XXe siècle. C'est un mouvement qui a changé l'histoire. Et je crois que s'il y a un mouvement politique auquel on peut mettre le nom de révolution, je pense que le sionisme a été une vraie révolution, non pas au sens où on a renversé le pouvoir, où on a renversé une classe politique, mais... ça a changé la vie du peuple juif. Mmh. On ne peut plus aujourd'hui penser au peuple juif, à la nation juive, sans l'État d'Israël. Mmh. L'État d'Israël, qui est donc l'aboutissement du mouvement sioniste, ça a changé, ça a donné du sens à la vie, ça a redonné aussi une fierté aux Juifs qui ont souffert et qui, même si ils n'ont pas peut-être tous l'intention demain d'aller s'installer en Israël, même si pas tout le monde est sioniste au sens réalisateur, le sionisme donne du sens à la vie juive. La vie juive n'est pas la même aujourd'hui dans le monde avec l'État d'Israël ou sans l'État d'Israël. Absolument. C'est ça, cette révolution, je crois, qui est extrêmement importante de comprendre. Et de ce point de vue-là, on peut dire nous sommes revenus à la maison, mais nous ne sommes pas revenus à la maison uniquement physiquement. Nous sommes revenus à la maison parce que cette maison nous donne du sens. Elle nous donne, elle donne un sens à notre existence, bien évidemment, mais elle nous donne aussi l'idée que le sionisme n'est pas quelque chose qui est passager, n'est pas quelque chose qui est un mouvement éphémère, qui va disparaître dans quelques années, comme nos ennemis le pensent, mais au contraire que le sionisme est une façon de s'installer chez nous et de s'y installer, de venir habiter en juif sur la terre d'Israël. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, habiter en juif sur la terre d'Israël? Les religieux ont peut-être des réponses, mais lorsqu'on n'est pas spécialement religieux, on a aussi cette idée que habiter en juif sur la terre d'Israël, ça veut dire quelque chose. Alors ça veut dire aimer les chansons de Shlomo Arzi et de Arik Einstein, peut-être. Ça veut dire aussi avoir une culture juive. Ça veut dire, comme disait Ben Gurion, qu'il y a des prostituées juives et des criminels juifs et des policiers juifs. Ça veut dire aussi qu'il y a une armée. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui travaillent. Ça veut dire aussi qu'il y a des pauvres, il y a des riches. Ça veut dire aussi qu'il faut construire, non pas un pays, mais il faut construire aussi les gens qui sont dans ce pays. Les construire en tant que juifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça a été la grande question. Herzl, de ce point de vue-là, n'avait pas les réponses. Ce n'était pas un idéologue, ce n'était pas un penseur juif. Il n'a jamais voulu être cela. Il a voulu être, je dirais, le coordinateur et ce qu'on a appelé le roi des juifs, au sens de celui qui porte la couronne. Et cette symbolique, il a fait quelque chose d'extraordinaire, Herzl, c'est que c'est lui qui a dessiné le drapeau d'Israël.
C'est vrai ?
Oui, c'est lui qui a dessiné à la main le drapeau d'Israël. Alors il a mis les Étoile de David au début, et puis après, au début, il va mettre la Ménorah, puis après, il a fait quelques esquisses, etc. Et finalement, ce Herzl, qui était, on l'a dit tout à l'heure, un assimilé, laïque, il a rajouté les deux bandes bleues en pensant au Talit. Et quelque part, c'était assez surprenant de la part de Herzl de mettre, je dirais, ce petit symbole religieux sur notre drapeau. Mmh. Et ce drapeau a été adopté.
Je vous propose qu'on écoute encore une musique avant de nous quitter.
Naomi Shemer.
Let's go.
Et voilà, il y a une terre inondée de soleil à laquelle nous avons rêvé pendant des années. Et je crois que c'est ça, le rêve sioniste, un petit peu. Et dans l'expression de Herzl, si vous voulez, ce ne sera pas un rêve. Il a dit aussi, dans 5 ans, voilà, aujourd'hui on pense que je suis un fou, mais peut-être que dans 50 ans, on verra que j'avais raison. Donc voilà, c'est Herzl a pu permettre, à donner, si vous voulez, des outils. Et je crois que ça, c'est... En France, on a beaucoup parlé de la caisse à outils, mais quelque part, le sionisme, c'est un peu comme le judaïsme. Ça n'est pas un objet, c'est pas quelque chose qu'on transmet, c'est plutôt une caisse à outils, c'est-à-dire ça a donné la possibilité de. Et je crois que s'il y a une leçon historique à tirer du sionisme, c'est que lorsque un visionnaire comme Herzl et comme les premiers sionistes donne de bons outils, voilà, on peut avoir un résultat dont on n'est pas forcément toujours satisfait. Il y a toujours des réparations à faire. Il y a ce qu'on appelle un tikkun. Et donc, quelque part, le sionisme a été, en ce sens, une révolution parce que Herzl a su donner des outils modernes, efficaces, politiques, qui étaient adaptés à l'histoire moderne. Malheureusement, cet État d'Israël est arrivé, pour certains, trop tard.
Malheureusement. Merci beaucoup, Michael. C'était donc Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Je suis Stéphanie Soufir. J'étais avec Michael Barzvi. J'espère que nous avons répondu à quelques-unes de vos questions. Et je vous dis à très bientôt.